Bah, si on observe une simple goutte d'eau à l'œil nu, ça ressemble juste à une petite sphère transparente. Bref, un truc d'une banalité absolue. Mais si on place cette même goutte sous la lentille d'un microscope, on y découvre soudain un univers entier en pleine ébullition, avec ses propres luttes pour la survie et tout.
C'est fascinant à quel point l'échelle change la perspective, en fait.
Exactement. Et pour notre deep dive d'aujourd'hui, on fait exactement la même chose, mais à l'échelle d'une ville. Enfin, d'une commune rurale. Notre microscope se braque sur un ensemble de rapports prospectifs de 2026 concernant Houillé, en Belgique.
Oui, et la mission de cette analyse, c'est de comprendre comment ce petit territoire est devenu un véritable laboratoire grandeur nature de nos défis mondiaux, comme le surtourisme, l'urgence écologique ou le vieillissement de la population.
Bon, décortiquons tout ça. Est-ce que vous pouvez nous poser le cadre géographiquement parlant ?
Alors, on parle d'un vaste territoire très boisé, comptant à peine 5215 habitants, donc c'est très peuplé. C'est un espace qui est historiquement tiraillé entre la nature sauvage de la Famenne et, de façon assez surprenante, une influence royale belge totalement disproportionnée.
Et c'est justement là que les rapports deviennent fascinants, quoi. Comment une région aussi rurale a-t-elle hérité d'infrastructures dignes d'une métropole ?
En lisant ça, il suffit d'imaginer un roi agissant comme un promoteur immobilier hyperactif.
Ouais, c'est exactement ça. Au XIXe siècle, le roi Léopold I s'y installe, à la base pour soigner les bronches de la reine.
Le bon air de la campagne, donc, ultra précoce pour l'époque, et même une gare privée, la fameuse halte royale, creusée à même la falaise.
C'est complètement fou. Creuser une falaise pour un train privé.
Ah, ce qui est fascinant ici, c'est le concept de dépendance au sentier.
Attendez, je vous coupe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça ? Qu'on est toujours prisonnier des caprices architecturaux d'un roi du XIXe siècle ?
D'une certaine manière, oui. La dépendance au sentier explique comment des choix d'infrastructures massives, faits il y a un siècle, sont presque impossibles à effacer aujourd'hui. Surtout à cause de leur coût et de leur ancrage physique.
Donc les urbanistes modernes doivent faire avec.
C'est ça, à Houillé. L'ancienne voie ferrée aristocratique dicte toujours la géographie en 2026. Mais ils l'ont transformée. Aujourd'hui, ça sert d'épine dorsale au réseau cyclable pour la mobilité douce.
C'est super malin. Seulement voilà, ces immenses infrastructures historiques, bah, elles ont aussi grand ouvert la porte au tourisme de masse moderne. Et là, les sources détaillent une crise assez impressionnante liée au kayak sur la rivière locale, la Lesse.
Oui, le fameux clash écologique de la Lesse.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Les rapports notent l'effondrement alarmant d'un bioindicateur, la mulette épaisse, qui est une moule filtrante, et la fuite d'un oiseau, le cincle plongeur. Mais il faut m'éclairer. En quoi des petits bateaux en plastique menacent une moule au fond de l'eau ?
En fait, ce n'est pas le bateau en soi. C'est vraiment l'accumulation. Imaginez des milliers de coups de pagaie qui raclent quotidiennement le fond de la rivière. Ça soulève la vase et ça étouffe littéralement ces moules.
Ah ouais, l'enfer pour l'écosystème ?
Tout à fait. Et ajoutez à cela la pollution liée aux crèmes solaires diluées dans l'eau, le vacarme constant qui empêche les oiseaux de nicher, bref, le système s'effondre. Le Conseil d'État est même intervenu, forçant une limitation stricte à 1500 kayaks lors des jours d'affluence.
Ce qui pose un dilemme implacable du coup. Les documents rapportent les faits de façon strictement impartielle, mais on sent bien la tension. Comment trancher entre la préservation vitale d'une rentabilité économique locale, avec des emplois qu'on ne peut pas délocaliser, et la survie obligatoire d'un écosystème protégé ?
C'est un arbitrage vertigineux pour n'importe quelle maire. Face à cette impasse écologique, on voit que la commune opère un pivot total vers l'avenir.
C'est-à-dire ?
Bah, il crée un tiers-lieu dans la fameuse gare historique, un vrai hub numérique axé sur l'intermodalité et les voitures partagées. Et si l'on relie cela à la situation globale, on voit une commune rurale qui capte agressivement des milliers de subventions européennes pour survivre.
Je suis un peu sceptique sur ce point, honnêtement. Est-ce qu'un espace de bureaux partagés et quelques bagnoles électriques peuvent vraiment compenser la perte de milliers de touristes ?
Financièrement, pas tout de suite, non. Mais le but, c'est la résilience. Ils misent aussi sur un retour à l'artisanat local pour compenser.
Ah oui, les fromages d'excellence dont parlent les rapports ?
Exactement. Et la coutellerie locale. Elle est célèbre pour avoir utilisé des bois de cerf tombés naturellement en forêt pendant les blocus des guerres mondiales pour façonner des manches de couteau.
C'est une belle histoire de survie, ça. D'accord, je saisis la logique de diversification économique. Mais est-ce que ce tiers-lieu répond aussi au problème du vieillissement de la population ?
Ah, complètement. C'est même le cœur du projet. Dans une commune rurale très vaste, les personnes âgées se retrouvent vite isolées. Le tiers-lieu centralise les services.
Donc, on rapproche l'administration des habitants.
C'est ça. Ça offre un accès au numérique Et surtout, ça structure un réseau de transport partagé qui permet aux seniors de rester connectés à la communauté, sans forcément devoir conduire.
En fin de compte, l'analyse de Wayet prouve que la ruralité est loin d'être à la traîne. Elle est souvent obligée d'être à l'avant-garde de l'innovation sociale et environnementale.
Oui, la survie force toujours l'adaptation.
Ce qui amène une pensée provocatrice finale pour clore ce deep dive. Si une petite commune belge parvient à brider sa propre industrie la plus lucrative et à revoir son aménagement uniquement pour sauver une modeste moule d'eau douce...
Ce qui est déjà un exploit politique.
C'est clair. Eh bien, ça soulève une question cruciale. Jusqu'où nos grandes métropoles modernes seront-elles réellement prêtes à sacrifier leur propre rentabilité pour garantir leur survie climatique face au surtourisme ? Voilà un sujet qui mérite réflexion.